remercie beaucoup vous tous d'être là. Pour moi, ça fait toujours plaisir de revenir en France, d'autant plus que j'ai jamais coupé les liens avec. D'ailleurs, tout ça vient d'un livre que je prépare en français sur la réception d'Adam Smith en France, mais plutôt sa philosophie morale. Et donc, j'aimerais beaucoup qu'il y ait des questions plutôt agressives, je vais dire critiques, même agressives. Ça va m'aider d'aller plus loin dans ma réflexion. Donc, c'est un des chapitres de mon livre que je vous présente là. J'ai déjà présenté une autre version du même article dont les cadres dans l'endroit aussi magnifique d'être qu'ici, c'est l'Institute for Advanced Studies in Humanities de l'Université d'Edinburgh. Là-bas, j'ai dû mettre l'accent sur Sophie Degoussy, que personne ne connaissait, un tout petit peu sur Germaine de Staël. C'était une introduction à ce penseur-là. Ici, je pense que je vais faire l'inverse. Je vais plutôt mettre l'accent sur Adam Smith et sa réception. Mais j'ai l'impression que la pensée d'Adam Smith devient de plus en plus connue en France aussi. Mais comme je voulais préciser, sa pensée économique, c'est très connu depuis très longtemps, mais sa pensée morale, c'est moins étudiée. Et surtout moins étudiée dans sa réception en France. Et j'ai constaté que la pensée morale d'Adam Smith, et surtout son grand livre, La théorie de Sandman Moreau, dont la traduction, c'est là, a une très longue, très, très intéressante carrière en France, déjà avant la Révolution et tout de suite après, durant la Révolution aussi. Mais ça a été éclipsé depuis. Et on vient de le redécouvrir beaucoup plus tard, dans le XXe siècle, la fin du XXe siècle. Donc, j'ai vu vous présenter un aspect que moi je trouve à la fois particulièrement intéressant et peut-être d'actualité, on verra ça avec vous, qui est, au moins c'est original, ça je peux vous les confirmer, même par rapport à la bibliographie anglo-saxonne, qui concerne les statuts du ridicule et du tragique. Et je vais essayer de vous montrer qu'ils sont liés aux manières et à la problématique de la politesse. Donc, ce que peut-être les étudiants d'Adam Smith, ou même les gens qui connaissent un tout petit peu Adam Smith, connaissent déjà, c'est le concept principal de sa philosophie morale, qui est le concept de la sympathie. Le concept de la sympathie, ce n'est pas propre à Adam Smith, enfin, une longue histoire, mais c'est déjà très connu par David Hume, et déjà présent dans les Lumières écossaises, et même particulièrement présente. Mais Adam Smith a fait un usage propre à lui. Il y a aussi un autre concept qui est moins connu, moins associé à Adam Smith, à sa philosophie morale, que je trouve toujours. Je trouve toujours étrange, que ce n'est pas très étudié, c'est le concept de la convenance, propriety. Le concept de la convenance, c'est tout à fait central aussi, c'est inextricablement lié avec le concept de la sympathie chez Adam Smith. Et d'ailleurs, la première section de la théorie de Sandman Moreau, la première partie s'intitule La convenance de l'action, consistant en trois sections. Si la sympathie est un opérateur, non pas une valeur ou un sentiment, mais un opérateur qui permet de rendre compte des modalités de communication des affections, alors il joue ses rôles sur un double plan, la nature des affections et leur intensité. Ce qui est transmis par le biais de la sympathie, c'est rapport à des intensités affectives, dont on peut dire que la circulation du moi vers autrui, ou dans l'autre sens, d'autrui vers le moi, doit permettre l'établissement d'une convergence vers un intervalle voire un point qu'Adam Smith n'hésitera pas à qualifier des points de convenance. D'où ça vient ma première citation. Toutefois, cette médiocrité, en quoi consiste les poids de convenance, diffère selon les passions. Ces niveaux peuvent être hauts pour certaines et bas pour d'autres. Il y a des passions qui ont un dessein d'exprimer très fortement, et il y a d'autres pour lesquelles les expressions les plus fortes peuvent être gracieuses en certaines occasions. Donc la convenance ou l'inconvenance est une question expérimentale, puis généralisée, d'une limite ou d'une tendance et d'une limite qui autorise la libre expression et la circulation des affections entre individus, formant les systèmes des actions et des évaluations réciproques. La régulation affective suppose encore, pour être effective, que soient prises en compte les rapports aux circonstances, la situation. Et en effet, parce que les évaluations sont toujours immanentes à leur contexte social, la fameuse figure du spectateur impartial se construit à distance comme une instance de généralisation et d'extension de la partialité limitée, comme un point de vue à la fois intériorisé et stylisé. Donc c'est très important de voir comment ces figures fameuses de spectateur impartial se construisent chez Adam Smith, se construisent empiriquement par les biais des interactions entre individus. Et en vue d'aller plus loin que les partialités qu'on peut constater à chaque fois. Et donc, on intériorise ce qui est ce qu'on pourrait appeler le conformisme social. Mais Adam Smith veut aller plus loin, veut dépasser le conformisme. Et dans ce cas-là, il utilise très souvent un vocabulaire de stylisation, c'est-à-dire cette formation de conscience morale, c'est plus que l'intériorisation. Tout ça, bien sûr, c'est une simplification à outrance, mais je pense que ça vous donne une première idée de ce que c'est que la convenance. Donc, vous pouvez prendre n'importe quelle passion. Pour Adam Smith, il y a toujours la possibilité de l'exprimer de façon appropriée. Pour faire cela, il faut se mettre à la place d'autrui et imaginer que les autres se mettent à notre place. Et cet essence des places, et ça c'est un motif constant, c'est Adam Smith, finit par créer des normes au fur et à mesure, empiriquement, des généralisations, donc des normes morales qu'on intériorise. Mais si vous voulez, la subtilité d'Adam Smith, il veut aller plus loin. Il crée donc cette figure de spectateur impartial. Il est très souvent, vous savez, il y a une bibliographie énorme désormais sur Adam Smith et le spectateur impartial, en anglais aussi, bien en français d'ailleurs, pas dans d'autres langues aussi. Il y a plusieurs approches, je dirais, théologiques, même théologiques la question, c'est-à-dire le spectateur impartial ressemble beaucoup à une voix intérieure qui est des dieux. Mais en fait, Adam Smith n'est pas très clair toujours lui-même, mais c'est que moi je vais, les points sur lesquels moi je vais insister, et c'est plutôt pour moi si vous voulez, l'interprétation la plus correcte, c'est ce vocabulaire et cette idée de stylisation. C'est-à-dire, spectateur impartial, c'est à la fois une forme d'intériorisation, puis stylisation. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir adapter à chaque fois, ajuster à une situation concrète. Mais comment c'est fait? Comment peut-on faire ça? Et à mon avis, pour mieux comprendre comment ces mécanismes fonctionnent, peut-être ouvrir une nouvelle problématique par rapport à cela, il faut se tourner vers la tradition rhétorique. La convenance est en effet une catégorie rhétorique depuis Aristote, donc Prépon. Je vais juste aller un peu plus loin. On connaît les Cicéron, Decorum, c'est une très longue tradition. Les mots d'expression, les styles de communication de sentiments n'est jamais dissocié chez Adam Smith de la moralité, aussi bien du jugement moral que de l'action morale. Pour obtenir l'approbation sabbatique, il faut savoir communiquer ses sentiments. et la motivation de gagner la sympathie du spectateur, et si Adam Smith a donné anthropologique plutôt que psychologique. D'ailleurs, l'omniprésence de la métaphore du spectateur, de l'audience, ainsi que l'accent mis sur les circonstances et les contextes, sont aux yeux de tout étudiant de la rhétorique classique. Dans ce sens, il faut impérativement se rapporter à ces lectures, Lecture on Rhetoric and Belles Lettres, qui, à ma connaissance, n'ont pas traduit en français, mais à moins que ça soit vraiment très récent, ce qui est dommage par ailleurs, parce que les références à la tradition française ont mis présentes dans le texte, qui sont en effet des notes des étudiants, parce qu'Adam Smith lui-même, il a brûlé tous ses notes, tous ses cahiers avant de mourir, donc ce sont des cahiers des notes d'étudiants, prises par des étudiants. Mais c'est un texte très intéressant, donc ce sont des leçons d'Adam Smith à des rhétoriques et des belles-lettres qui a comme intitulé à l'époque ce qu'on aurait appelé aujourd'hui l'esthétique, la rhétorique. Donc ce sont des leçons qu'il a données à l'Université de Glasgow. Et je vais me tourner vers ce texte-là. Et on pourrait discuter plusieurs aspects de ces textes-là, mais moi je vais me concentrer uniquement à la catégorie du ridicule. Catégorie du ridicule qui est quand même une catégorie plutôt sérieuse pour Adam Smith, parce qu'il il consacre des leçons entières et il fait plusieurs références, et comme je vais essayer de les montrer, ça a une importance plus. Alors qu'est-ce que c'est que le ridicule ? Vous avez probablement devant vous les handouts. Donc c'est numéro 2. As ridicule proceeds from a combination of the ideas of admiration and contempt. Donc c'est toujours une combinaison des idées, de l'admiration et de l'idée du mépris. Et je peux vous lire en anglais ou pas? Quelle est la tradition de cette salle? Enfin, pas tout, mais je vais dire. Je vous ai donné tout ça pour avoir un peu les références. Ça va? Ok, parfait. It is proper to be observed that all of these pieces of ridicule, burlesque, doggerel, mock heroic, parodies, centos, puns, quibbles, and even that sort of comedy with ridicule characters, not from the real defects, but from the circumstances they are brought into, are all of the buffoony sort and unworthy of a gentleman who has had a regular education. The only species of ridicule which is true and genuine wit is that where real fables and blemishes in the characters or behavior of men are exposed to our view in a ridiculous light. This is altogether consistent with the character of a gentleman as it tends to the reformation of manners and the benefit of mankind. Donc, si. C'est, en effet, excusez-moi, je vous ai lu la citation suivante, ça va dans le même sens, mais je suis désolé, je m'excuse. Donc, je reprends mon analyse d'avant, on a l'idée de l'admiration, l'idée du mépris, et en gros, l'idée, c'est qu'on a à chaque fois une forme de valeur d'un objet qui a une certaine valeur, et puis d'un objet qui est un objet méprisant. Une situation à laquelle on accorde une grandeur, et puis quelque chose qui est vraiment petit, les grands et les petits. Et donc, à chaque fois, il y a un sentiment qui va avec, un sentiment d'admiration, un sentiment du mépris. Et il y a toute forme de combinaisons de deux qui créent les situations de ridicule. C'est-à-dire, as there are two sorts of objects that excite our admiration, when an object is grand and beautiful, and two that excite our contempt, those that are little and mean, or such as are deformed and disagreeable in themselves. So there must be two sorts of ridicule proceeding from the combination of these different objects. When mean objects are exposed by considering them as grand, and when grand ones as such, or such as pretend or are expected to be so, are ridiculed by exposing the meanness and the littleness which is found in them. Swift has chosen the former, Lucian the latter of the sort. Je vais revenir sur Swift, Jonathan Swift et Lucian, l'auteur ancien, qui est un moment important. important. Il faut donc distinguer les ridicules essentiels du ridicule accidentel qu'on a vu après, c'est-à-dire quelque chose qui est ridicule par accident, quelque chose qui est grand, mais qui est mis dans des circonstances qui sont pas dignes de cela, c'est-à-dire, il donne plusieurs exemples, un gentleman qui est en train de dire une mauvaise plaisanterie, quelque chose qui n'est pas approprié à lui. Il y a d'autres exemples aussi. On peut avoir la situation inverse également, mais ce qui lui trouve les centres, enfin le cœur du problème, c'est l'idée qu'il y a des formes de caractère qui sont ridicules par essence. C'est pour ça qu'ils appellent ça ridicule essentiel. Et ça, il faut les dénoncer. Non pas quelque chose qui est circonstanciel, par accident, mais quelque chose qui appartient au sujet. Et non seulement il faut le dénoncer, ces ridicules-là, mais il paraît que c'est... It tends to the reformation of manners and the benefit of mankind. C'est une affaire sérieuse. Et il va développer ça plus tard. Je viens de souligner les deux exemples d'Adam Smith, Swift, Jonathan Swift, qui j'imagine tout le monde connaît par les Gulliver's Travel, mais c'est un auteur très très connu de la période. Et Lucien, que peut-être personne n'a lu, enfin je ne sais pas, si on lit, enfin pas vous, mais je veux dire les étudiants, excusez-moi, je me tourne. Mais moi j'ai lu à l'occasion, enfin étant grec, j'ai lu ça à l'occasion d'Adam Smith, enfin un étudiant Adam Smith, mais c'est un auteur très très drôle. C'est sérieusement drôle. Et peut-être important d'une certaine façon. Smith, il a une autre dimension de son œuvre qui est très importante, qu'on ne souligne pas assez. C'est qu'il appartient à cette tradition de caractère, c'est la ligne de la tradition morale des caractères et des portraits moraux qui revient à Aristote, Théophraste, La Bruyère. Et d'ailleurs, Adam Smith, il a beaucoup, beaucoup d'estime. Il a lu très attentivement La Bruyère. Il s'appuie beaucoup sur Aristote et Théophraste aussi. Mais Aristote et La Bruyère sont des références pour lui. Donc, son œuvre morale, si vous voulez, une introduction très rapide à Adam Smith, c'est une galerie de portraits moraux. Donc, il fait des portraits de toutes sortes. Il esquisse des portraits. Donc, pour lui, la moralité, c'est une affaire pratique. Mais si vous voulez, il faut donner les contours d'un caractère moral. Qu'est-ce que c'est qu'un caractère? Il faut esquisser un portrait. Il faut montrer les portraits de quelqu'un. Quelqu'un de moral, quelqu'un d'immoral. Et il y a aussi un peu des grisailles entre les deux. Mais il a toutes sortes de portraits. Et il bâtit sa théorie morale sur les portraits. Alors, pour... Qu'est-ce qu'Adam Smith fait dans la leçon de rhétorique et de belles lettres? C'est d'esquisser un portrait qui est le portrait de plein man, l'homme franc. Je ne sais pas quelle est la bonne traduction en français, mais vous allez voir, c'est très simple à comprendre de quoi il s'agit. A plain man is one who pays no regard to the common civilities and forms of good breeding. He gives his opinion bluntly and affirms without condescending to give any reason why he's doing so. And if he mentions any sort of a reason, it is only to show how evident and plain a matter it was and expose the stupidity of the other in not perceiving as well as he. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose comme...
C'est en anglais.
C'est en anglais.
Oui,
ça, je pense que ça a une certaine actualité désormais, non? Si je vous donne cet exemple, c'est pas uniquement parce qu'il se trouve une certaine actualité, mais parce que pour lui, Swift, il est une des instances, enfin, c'est un représentant de plein de mains. Et l'opposé qu'il donne dans a simple man, while not studious to appear with all the outward marks of civility and breeding, is willing to use them when they naturally express his real sentiments. Il fait très souvent ces gens de paires d'opposition, the plain man and the simple man. Ici, le plain man, c'est la plupart du temps la vieillesse qui amène cette forme d'arrogance et de certaines formes de manque de respect à la politesse. Et puis la jeunesse, parfois, comme ça, c'est ça la description qu'il fait de ce passage-là. C'est simple. C'est-à-dire, il y a une forme de. On cherche l'authenticité. On est poli uniquement sur les sangs, etc. C'est ce genre de division qu'il fait. On va voir que ça a une certaine importance pour la suite. Et donc, Swift est le plein hein, pour Adam Smith. Et une exposition systématique, selon Adam Smith, du ridicule en matière d'expression morale aurait simultanément réfuté toute forme d'inconvénient stylistique en matière morale. La satire morale est un système de formes du ridicule, partie intégrante et indispensable de tout système moral. D'autre part, toute critique morale est également une critique sociale. Et donc, le ridicule est une affaire bien sérieuse, dans le sens où, selon Adam Smith, il fait partie d'un système moral. C'est-à-dire, non seulement il faut avoir des portraits, c'est-à-dire un aspect pratique de la moralité, mais en plus, il faut avoir cette espèce de satire morale incorporée dans le système. Avoir les deux. Ce qui, à ma connaissance, n'est pas la chose la plus banale qu'on peut faire, avoir comme ambition de la philosophie morale. Là, je vous renvoie à ma citation numéro 5A. Et là, il fait la description de Swift. Il faut préciser que, comme ce sont des leçons de les rhétoriques et des belles lettres, il est question aussi bien d'orateurs que d'écrivains, donc Swift à l'occasion. As he morose, temper directed him to make choice of the gay follies of men to exercise his talent for ridicule, so the character of a plain man, which he affected, hindered him from ever making us laugh to excess at any subject in however ridiculous a light he may set. Alors, cela fait partie du genre épidictique en rhétorique. Et donc, le caractère de l'orateur lui-même, son statut moral est impliqué dans l'affaire. Et donc, ce qu'on peut savoir de Swift, c'est qu'il avait cette morose temper. Et donc, il ne pouvait pas ridiculiser ouvertement. This he does when he speaks in his own person. When he speaks in quand il parle à son pronom, il est réservé. But when he has in mind to throw a great degree of ridicule on any subject, he puts it in the mouth of some other person, as in Gulliver Travels. Par ailleurs, c'est un livre excellent si vous voulez regarder. Là, il change et il commence à ridiculiser tout ce qu'il trouve petit, au sens social, moral, surtout au sens social du terme. Lucien, if we may judge of the man from his works, has been of a very opposite turn. He was a merry guy and jovial temper with no inconsiderable portion of levity. He was a follower of the Epicurean or rather Cyrenaic sect. His principles are all adapted to that scheme of life where the chief thing in view is to pass it easily and happily, life, la vie, and with as much pleasure as we possibly can. Friendship and the exercise of social affections are, in his own opinion, the chief funds of enjoyment. Grave men who get anything of levity and folly in their character were those that he most despised, as those who went about their follies with an air of importance appear more despicable in the eyes of the morose Swift. Is continued, 5b. By the different ends that Swift and Lucian have had in view, they have formed a complete system of ridicule, a system complet de ridicule. There is hardly any folly of the gayer sort that Swift passes over, and scarce any of the graver that is omitted by Lucian. Either Donc, Lucien s'occupe de ce qu'il y a de ridicule chez les grands et Swift l'inverse. Ce qu'il y a la prétention qu'il y a, c'est déjà insignifiant d'avoir une certaine grandeur morale, sociale. Either of them taken alone might be apt to prejudice one in favor of the foolish, contrary to those he ridicules. Donc il y a une partialité à côté. But both together form a system of morality from whence more sound and just truths of life for all the various characters of men may be drawn than from set systems of morality. Donc là, il affirme clairement que pour avoir un système de moralité complet, un vrai système de moralité, il faut pouvoir incorporer a complete system of ridicule. Donc, si vous voulez, sa prétention à lui, Adam Smith, c'est de pouvoir incorporer dans son système les deux aspects. Ça, c'est, je pense, ça a un intérêt aussi plus loin que je vais vous montrer. Pour donner des exemples de quel type de grandeur, quel type de petitesse on a affaire à chaque fois, on a la citation 5C. Swift, as we said, exposes not but empty coxcombs. Coxcombs, c'est le parvenu. Fine gentlemen, beau, belle, and any that encourage themselves in employments of no moment of importance of life. Les formes de prétention superficielle, la superficialité sociale, si vous voulez. Lucien, on the other hand, has pitched on for the subject of his ridicule persons of the most solemn and respectable character, as gods, goddesses, heroes, senators, generals, historians, poets, and philosophers. Il fait des satires des philosophes très, très réussis parfois, Lucien. As those wherein the graver sort of follies are most commonly found. Donc, on voit bien qu'il y a une forme de si vous voulez, un paire d'opposition et à la fois l'importance qui relève pour Adam Smith, c'est ce qu'il appelle un complete system of ridicule pour sa philosophie morale. Mais comment savoir avec Swift, et Smith va en faire un usage plutôt soutenu, on commence à voir quelques portraits sociaux et moraux à la fois, des formes de superficialité ou des formes de prétentions sociales qui sont tout à fait modernes à l'époque, et surtout les portraits du parvenu. Et les portraits du parvenu, c'est important pour Smith parce que ça, c'est quelque chose qui traverse. Je vais revenir là-dessus, mais ça commence déjà par Swift. Donc Smith s'appuie sur Swift pour dénoncer des formes de corruption morale et sociale, et il considère les types sociaux du parvenu comme pas insignifiants. Je vais revenir à la théorie de Saint-Mamoreau et je vais vous montrer quelques citations par rapport au moment où Adam Smith commence à théoriser la politesse et à faire, si vous voulez, la place, essayer de réserver une place pour la politesse à l'intérieur de son système d'idée de la convenance. Il faut noter que la convenance, c'est une notion beaucoup plus large que la politesse. Et d'une certaine façon, si la politesse est la politesse aristocratique, si l'idée c'est le statut social qui est important, la convenance, et l'idée de la convenance, c'est d'avoir une forme de manières qui ne sont pas forcément liées au statut social, ou qui sont liées à un statut social qui n'est pas aristocratique, qui concerne ce que je vais appeler plus tard les classes moyennes, ce qu'on appelait à l'époque les rangs moyens. Si on regarde vers la fin de cette section sur la convenance, c'est tout à la fin, les deux derniers chapitres. Le premier, ça porte sur l'ambition et l'origine des distinctions des rangs. Et le deuxième, sur la corruption de Sanima Moro. C'est le numéro 6 de mes citations. Là, il commence à la fois à faire l'anatomie et à mon avis, c'est parmi les passages les plus drôles d'Adam Smith, de la théorie de Sanima Moro, mais ça a une importance à la fois pour sa pensée sociale, politique et morale. Donc, il commence à faire une description, une anatomie, si vous voulez. Et à la fois du statut social et des manières des aristocrates. Je commence à lire. Son air, ses manières, son maintien de l'aristocrate, tout souligne ses sens élégants et gracieux de sa propre supériorité, auxquels ceux qui sont nés dans des conditions inférieures peuvent difficilement parvenir. Faire figure de Jean Bol est son grand triomphe et réussir dans une intrigue galante son exploit le plus élevé. Donc, il est à la fois, si vous voulez, critique, il a du sarcasme, mais il reconnaît une certaine importance au fait que les manières de l'aristocrate doivent rester parmi les rangs appropriés, c'est-à-dire parmi ces statuts sociaux, parmi les gens qui appartiennent à ces statuts sociaux. Je continue à propos de Louis XIV, mais quels étaient les talents et les vertus par lesquels il acquit cette grande réputation ? Était-ce par son savoir étendu, par son jugement perspicace ou par sa bravoure héroïque ? Dit son historien, il surpassait tous ses courtisans par la grâce de son maintien et la beauté majestueuse de ses traits. Les sons de sa voix, noble et touchante, gagnaient le cœur que sa présence intimidait. Il avait une démence et un maintien qui ne pouvaient convenir qu'à lui et à son rang, et qui aurait été ridicule chez n'importe quel d'autre. Qui d'autre ? Ses qualités frivoles, soutenues par son rang, et sans aucun doute aussi par quelques degrés d'autres talents et vertus, qui, semblait-il, ne s'élevaient pas au-dessus de la médiocrité, ont placé ces princes dans l'estime de ses contemporains. Donc, les langages d'Adam Smith demeurent tout au long de cette fin de la première partie de la théorie de Sanima Moro, un peu ambigu. C'est-à-dire, c'était à la fois ironique, ça n'a pas une vraie valeur, mais c'est quelque chose qui, et là il insiste beaucoup, doit pas être imité par les non-aristocrates. Et là, il commence à esquisser son portrait des parvenus dont je vous ai parlé tout à l'heure, et là, c'est ce passage également sarcastique. Et là, il n'est pas du tout ambigu, il est très clair, très clairement sarcastique. La politesse est à ce point vertu des grands qu'elle fait paix honneur à tout autre qu'à eux-mêmes. La fa, les parvenus, dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc les mots anglais, les termes anglais, c'est coxcop, c'est pas ça, imite leur manière et affecte d'être éminent par la convenance supérieure, notez bien le mot, la convenance supérieure de son comportement ordinaire. C'est stylistiquement, c'est drôlement bien fait. La convenance supérieure de son comportement ordinaire. Et pour sa folie et pour sa présomption, doublement récompensée par un mépris. Pourquoi l'homme, que personne ne pense digne d'être regardé, devrait-il être soucieux de son port de tête ou de son bras, badant qu'il marche dans une pièce? On dirait du Chateaubriand. C'est... Les termes anglais, si vous regardez les textes anglais, c'est encore plus sardonique. He deserves a double share of contempt. Why a man renders. C'est une description qui, comme je vous montre, j'ai pas donné traduction des autres citations parce que je trouve quand même que les langages. Le langage est important à ce point. Donc il revient sur ce point plusieurs reprises, donc de la théorie de Sanima Moro plus loin. The empty coxcomb solicits with the most anxious importunity all external marks of respect of being taken notice of in public places with the appearance of deference and attention. Mais ce qui est important, c'est qu'au fur et à mesure, si vous voulez, qu'il est en train de compléter les portraits du parvenu. Il rajoute quelques détails qui sont plutôt inquiétants, c'est-à-dire il commence à anticiper ce qu'on appelle aujourd'hui le stress. C'est-à-dire c'est une forme d'existence sociale qui est traversée par toute forme d'angoisse. On n'est jamais vraiment sûr de nous-mêmes. Enfin, c'est ça l'idée. Et cela, je ne trouve pas inintéressant, parce que si on met tout ça dans le contexte de l'époque, c'était la discussion qu'on trouve très souvent dans des journaux comme The Spectator ou d'autres types de pamphlets sur l'ascension sociale et la mobilité sociale. C'est-à-dire les premières formes de sarcasme, de satire, de l'ascension sociale, donc de devenir classe moyenne de certaines couches de la population qui ne savaient pas qui imiter et comment se comporter. Et il y a toute forme de sadisme, moi je dirais, qui à l'époque sont à la fois décrits et parfois critiqués. En tout cas, personne n'est là pour... Comme la sociologie d'aujourd'hui le fait parfois, pour soutenir que c'est tout à fait normal que quelqu'un qui vient d'obtenir quelques marques d'ascension sociale n'a pas les manières propres à sa nouvelle condition. Mais là, on voit qu'Adam Smith adopte un langage qui est à la fois conservateur, si vous voulez, c'est pour maintenir l'ordre social, et très critique. Critique de toute forme de pathologie sociale de l'époque. Et ce double langage moral, moi, je trouve également très important à noter. Et je pense que c'est en grande partie l'aspect critique d'Adam Smith provient de ces lectures des rhétoriques des belles lettres où il tire toute forme de critiques, d'appareils critiques, si vous voulez, qui après il développe dans la théorie de Saint-Mamoru. Et ça, je pense, c'est une transition tout à fait importante qu'il faut noter. D'autre part, dans la même fin de la première partie sur la convenance, Schmitt a continue avec la dénonciation traditionnelle de la corruptrice, mais aussi on doit souligner que l'opposition entre vice et vertu recouvre parfaitement les contrastes entre l'élection ou la cooptation par les pairs, la nomination par un supérieur, l'industrie récompensée et la grâce accordée, finalement entre les principes républicains et les principes monarchiques. Et Hume et Smith, ce que je trouve intéressant, qui est plutôt original dans ce contexte, parce que là, c'est pas du tout propre à Hume et Smith, c'est pas du tout propre à l'Écosse. Enfin, en France, déjà, ça existait. Mais ce que je trouve intéressant dans le contexte écossais, c'est que David Hume et Adam Smith déplacent la question vers les manières des rangs moyens, ce qu'on appellerait aujourd'hui la classe moyenne. Et ils insistent beaucoup sur les manières. Qu'est-ce que c'est, quelles sont les manières qui sont propres ce qu'à l'époque on appelait middle station of life, les rangs moyens, ce que je pense, en gros, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la classe moyenne. Et c'est peut-être le premier moment de cette description. Et alors, c'est le moment où l'idée de l'imitation de manière aristocratique par exemple des rangs moyens, des classes moyennes vient faire surface. Et donc selon Adam Smith, imiter la posture de l'aristocrate nous permet d'obtenir sans effort l'approbation du spectateur, qui n'est ni une approbation morale ni une approbation immorale lorsqu'il s'agit d'un statut social aristocratique. Donc pour l'aristocrate qui n'a rien de particulièrement grand ou excellent, jouer ces rôles-là, c'est-à-dire faire des choses qui sont plutôt superficielles, pour Adam Smith, c'est acceptable. D'une certaine façon, c'est approprié. Et ça, c'est, je pense, un aspect à discuter, parce qu'au fond, Si on essaie de voir par rapport à la philosophie morale d'Adam Smith, qu'est-ce que c'est que le comportement de l'aristocrate? Est-ce moral? Pas exactement. Est-ce immoral? Sûrement pas, mais pas loin non plus. Mais est-ce approprié? Bien sûr, s'il ne fait pas des choses absolument excessives, c'est tout à fait approprié pour un aristocrate qui hérite de la distinction. Il ne les mérite pas, il ne mérite rien d'ailleurs. Mais c'est tout à fait normal et tout à fait approprié dans son langage de se comporter comme ça. Ben, les vrais problèmes, c'est quand les rangs moyens ou les restes de la société commencent à imiter. Et à imiter non seulement à acquérir certains biens, mais surtout à imiter des manières aristocratiques. Et c'est ça ce qui souligne Adam Smith tout à la fin de cette première partie sur la convenance, qui est au fond ce qu'il appelle lui-même la corruption des sentiments moraux. Ce qui, par rapport à la lecture d'Adam Smith comme un libéral, me paraît pas tout à fait, enfin, paraît comme une forme de complexité supplémentaire sur ces questions-là. Et avant de continuer, je vais juste souligner un autre aspect aussi que je trouve important, que je ne sais pas si a été suffisamment clair. C'est l'idée que ce qui est mis dans sa réflexion, et c'est aussi de souligner, c'est que, au fond, imiter l'aristocrate, imiter les manières de l'aristocrate, ça trahit une tendance. C'est une tendance qu'aujourd'hui, dans les sciences sociales, on aurait une tendance qu'aujourd'hui, dans les sciences sociales, on aurait qualifié des problèmes du passager clandestin, mais d'une façon très originale et paradoxale aussi, parce que c'est ce qu'il est en train de décrire, c'est l'idée que l'identification, parfois, le fait que d'une certaine façon on idéalise l'aristocrate et on commence à imiter ses manières, c'est une façon d'acquérir, si vous voulez, l'approbation sympathique sans la mériter. L'aristocrate ne mérite pas, mais il est aristocrate. Les non-aristocrates qui l'imitent sans la mériter, ils commencent à développer un mécanisme qui est un mécanisme mental, si vous voulez, pour Adam Smith, qui est tout à fait un mécanisme corrupteur, parce que c'est l'idée qu'on peut obtenir sans mériter, sans rien mériter, l'approbation sympathique. Je sais pas si vous voyez quel est le problème. C'est que soit on obtient l'approbation sympathique qui n'est pas tout à fait une approbation morale, mais une approbation sociale, si vous voulez, parce qu'on est aristocrate, on ne mérite rien, mais on hérite, et c'est tout. Mais c'est bien plus l'ordre social. Soit il faut mériter l'approbation sympathique, il faut avoir des vertus, si on n'est pas aristocrate. Et ben, le problème, c'est qu'Adam Smith commence à décrire quelque chose qui est de l'ordre de l'imaginaire collectif, que l'imaginaire collectif qui commence à se créer à l'époque, à l'Écosse, c'est un imaginaire collectif de passager clandestin, c'est-à-dire essayer de devenir idéalement des héritiers, mais des héritiers imaginaires. Et ça crée toute forme de ridiculisation, mais aussi, comme on va le voir, quelques tragédies, peut-être pas des tragédies extraordinaires, mais quelques tragédies. Et ça, à mon avis, c'est un moment à voir, parce que c'est très important. Je vais continuer par... Attendez, parce qu'il y a une note ici que vous avez dans les handouts, mais ça manque au... signaux que vous avez dans votre, handout, c'est la station numéro 7. D'où naît alors cette émulation qui court à travers les différents rangs de la société? Être observé, être remarqué, être considéré avec sympathie, contentement et approbation sont tous les avantages que nous pouvons nous proposer d'en retirer. C'est la vanité, non le bien-être ou le plaisir qui nous intéresse. Or, la vanité est toujours fondée sur la croyance que nous avons d'être objet d'attention et d'approbation. Au contraire, l'homme de rang et distinction est observé par tout le monde. Chacun est avide de les regarder et de concevoir, au moins par sympathie, cette joie et cette exultation que les circonstances de sa condition lui inspirent naturellement. Ses actions sont les objets de l'attention publique. Presque aucun mot, aucun geste ne peut venir de lui qui soit entièrement négligé. Je pense que c'est la première description de ce qu'on appelle aujourd'hui les star systems. C'est vraiment ça. Donc, d'une certaine façon, il anticipe plusieurs choses. Maintenant, je vais revenir sur les ridicules, mais un tout petit peu plus tôt de la théorie de Saint-Marc Moreau. Je vais terminer avec ça, pas mon exposé, mais cette partie sur Adam Smith. Et Adam Smith a des idées, il développe des idées qui sont pas tout à fait des liens communs à l'époque, mais qui sont explicables par son système. Donc, il a des idées en particulier qui ont été pour la plupart de ses contemporains paradoxales, si vous voulez, c'est qu'on ne peut pas sympathiser avec les affections qui sont liées au corps. L'idée est très simple. On ne peut pas sympathiser avec les plaisirs et la peine qu'on éprouve chacun de nous, parce que c'est très très difficile à montrer aux autres la vraie intensité de ce qui est notre plaisir et surtout notre peine. Donc Adam Smith a cette idée qu'on sympathise très souvent avec les effets secondaires de ça, mais pas avec les souffrances corporelles au sens propre du terme. Et pour la même raison, il a une conception qu'on pourrait qualifier d'autiste par rapport à l'amour. Donc il pense que l'amour, c'est l'amour en soi est impossible à communiquer avec qui que ce soit, comme les souffrances corporelles. C'est-à-dire qu'on ne peut communiquer qu'une toute infime partie de ce qu'un être ressent. Par rapport à l'amour, donc ce qu'on est en train de communiquer à chaque fois sont des effets secondaires, les espoirs, sont des affections secondaires. Donc il pense qu'il y a une forme de solipsisme profond de ce point de vue-là, et il associe, il développe, si vous voulez, ses idées par rapport à la représentation tragique d'une tragédie. Et les théâtres. Je vais avoir. Attendez, pour pas. C'est le numéro 7.
Tout à l'heure, quand vous avez dit 7, en fait, c'était 9.
7.
Je crois pas que.
Ok. Donc, on retourne. Je vous remercie, mais on retourne en arrière. Mais vous voyez ça, c'est le numéro 7. Je pense que c'est votre handout, c'est le numéro 7. Parfait, je vous remercie. Donc, les souffrances d'Hercule et d'Hippolyte ne sont intéressantes que parce que nous prévoyons que la mort en sera la conséquence. Si ces héros en réchappés, nous trouverions la représentation de leur douleur parfaitement ridicule. Quelle tragédie aurait pour sujet les malheurs d'avoir les coliques? Et pourtant, il n'est pas des douleurs plus aiguës. Dirait les théâtres. Il a quelques conceptions comme ça, plutôt paradoxales, Adam Smith. Et je continue avec les citations suivantes. On peut considérer en général que perdre une jambe est une calamité plus réelle que perdre une maîtresse. Pourtant, une tragédie qui relaterait la perte d'une jambe quelques autres souffrances de ces gens seraient ridicules. Au contraire, une infortune de l'autre genre, si frivole que puisse paraître, constitue le sujet de nombreuses excellentes tragédies. Là, on reste dans le domaine de l'humour, mais là, ça devient un tout petit peu plus intéressant, je pense. Par la suite, il essaie d'expliquer à Adam Smith pourquoi on est, pourquoi les tragédies qui représentent les aventures et les malheurs des amants sont si agréables. Pour cette raison, la passion heureuse nous intéresse bien moins que la passion craintive et mélancolique. Nous tremblons devant tout ce qui peut décevoir des espoirs aussi naturels qu'agréables. Et ainsi, nous entrons dans toute l'inquiétude, l'angoisse et la détresse de l'amant. Je continue avec la citation suivante. Quand nous considérons la condition des grands sous les couleurs trombeuses au moyen desquelles l'imagination est susceptible de la dépeindre, elle semble presque correspondre à l'idée abstraite d'un état parfait et heureux, dont tous nos songes éveillés et dont tous nos rêveries oisives, c'est cet état même que nous avons esquissé comme l'ultime objet de nos désirs. Nous sentons donc une sympathie particulière avec la satisfaction de ceux qui sont de cette condition. Nous sommes favorables à toutes leurs inclinations et soutenons tous leurs souhaits. Quelle dommage, pensons-nous, que quelque chose puisse gâter ou corrompre une situation si agréable. Nous pouvons même souhaiter qu'il soit immortel. Ce sont uniquement les infortunes des rois qui fournissent des sujets convenables de la tragédie et ressemblent en cela aux infortunes des amants. Ces deux situations sont celles qui nous intéressent principalement au théâtre, parce qu'en dépit de tout ce que la raison et l'expérience peuvent nous dire du contraire, les préjugés de l'imagination, et c'est moi qui souligne, relient à ces deux états un bonheur supérieur à tout autre. Troubler ou mettre fin à un tel plaisir parfait semblait plus atroce de préjudice. Notre obsécurité à l'égard des ceux qui nous sont supérieurs n'est plus fréquemment de notre admiration pour les avantages de leur situation que d'une secrète espérance d'un bienfait provenant de leur bon vouloir. Nous sommes avides de les aider à compléter un système de bonheur qui approche de si près la perfection. Donc, en fait, ce qui a commencé à décrire comme quelque chose de paradoxal ou de comique finit par avoir une certaine importance pour l'ordre social. C'est-à-dire, c'est que Adam Smith commence à décrire ici, je pense, une forme de la pensée utopique, si vous voulez, et la façon dont l'imaginaire collectif représente l'utopie. Et de ce point de vue-là, il pense lui-même que ces catégories d'idéalisation de la garantie sociale, d'une certaine façon, c'est au centre de la préservation de l'ordre social. Et donc, il a une approche quasi psychanalytique, moi je dirais, la façon dont les respects et la déférence à l'autorité, qui, à mon avis, est un sujet important, et c'est là qu'il est question ici, la façon dont l'autorité sociale et politique est respectée, les raisons pour lesquelles l'autorité sociale et politique est respectée. Si on laisse Adam Smith de côté et on continue un peu avec j'ai un peu de temps, on est
un petit peu mais pas trop.
Ok, bah je vais terminer avec Sophie de Grouchy et à mon avis c'est... Ah, parfait, c'est juste après, c'est 1698. C'est une des figures, à mon avis, très très injustement oubliées, Sophie de Grouchy. D'ailleurs, on a une édition désormais des Lettres sur la sympathie, une nouvelle édition, mais il a des choses très intéressantes à dire. Elle montre que Plusieurs lignes de pensée en France proviennent d'Adam Smith et de la lecture d'Adam Smith sans la connaître. Et je vous ai mis, là, il ne faut pas me tromper à nouveau, c'est la station numéro 10, c'est bien ça. Donc je vous ai mis ensemble la station d'Adam Smith et la critique de Sophie de Coucy qui, par ailleurs, a fait l'éloge d'Adam Smith. Pour elle, c'est le penseur moderne le plus important. Mais elle a quelques critiques à lui faire, quelques objections. Et là, c'est la première qui nous montre comment elle a transformé la pensée smithienne et la tournée dans une autre direction. Donc, c'est la citation qu'on a lue juste avant, mais c'est en entier. Notre obséquiosité à l'égard des ceux qui nous sont supérieurs n'est plus fréquemment de notre admiration pour les avantages de la situation que du secret d'espérance d'un bienfait provenant de leur bon vouloir. Nous sommes avides de les aider à compléter un système de bonheur qui approche de si près de la perfection. Que les rois soient serviteurs du peuple, qu'on puisse leur obéir, les résister, les déposer ou les punir, qu'on peut exiger les biens publics, sont les doctrines de la raison et de la philosophie, et non pas celles de la nature. Grand roi, sois éternel. Tels seraient les compliments qu'à la manière orientale, nous leur ferions volontiers, si l'expérience ne nous enseignait pas l'absurdité. C'est cette citation-là qui critique Sophie de Coucy dans ses lettres. Je ne crois pas que Smith ait indiqué la véritable raison qui nous fait plaindre les rois détrônés. Si nous compatissons plus vivement à leur malheur qu'à ceux des autres hommes, c'est uniquement parce que les rois nous paraissent préservés de ce malheur par leur élévation. Nous jugeons qu'ils doivent y être plus sensibles, et non qu'on Smith le pense, parce que l'idée de la grandeur qui se joint dans presque tous les esprits à celle de la félicité nous dispose par une sorte d'affection et de complaisance pour leur bonheur à sympathiser plus particulièrement avec eux. Il me semble que cette affection est peu connue de l'Empire britannique, qu'elle est ignorée dans le reste de l'Europe. Il est au moins bien certain qu'elle est absolument opposée au sentiment d'égalité naturelle qui nous porte à regarder avec jalousie ou au moins avec sévérité tout ce qui est au-dessus de nous. Donc, on voit bien que ce qu'ils appellent détrôner l'amour des rois de l'imaginaire collectif, c'est une approche qu'elle a choquée aussi. Qui est au fond de l'idée de montrer que l'identification avec la royauté est une bizarrerie de la part d'Adam Smith, c'est un paradoxe. Et il reprend et s'approprie de l'idée rousseauiste du ressentiment. Les sentiments naturels, quand l'égalité naturelle est transgressée, c'est le ressentiment. Et je vais finir avec des citations qui sont très récemment publiées, enfin révisitées si vous voulez, qui sont par des cercles de Condorcet et on est désormais certain, après recherche, que Sophie de Coucy était impliquée dans la rédaction. C'est un passage d'un pamphlet qui s'appelait à l'époque Les Républicains ou Les Défenseurs du gouvernement représentatif. Et publié par Condorcet et Thomas Paine en 1791, concernant la servilité et l'infantilisation de l'ancien régime. Il s'en dirait que pour affaiblir cet amour, l'amour droit, il fallait, s'il était possible, anéantir les respects qu'il a toujours accompagnés. S'il était possible, on n'en doutait point, ce respect est anéanti comme l'amour. Les quarts des Français, guéris de cette passion stupide et vaine, s'est élevé à l'amour des lois et de la patrie. Leur âme exaltée par les sentiments généreux ne redescendra point à ramper autour de la personne d'un prince. Le plus puéril de tous les hochets qui dégrade l'enfance des nations, c'est à voir. Les Français ne veulent plus des hochets, ils sont hommes. Et j'ai aussi une dernière citation à vous lire que je trouve particulièrement intéressante aussi pour son actualité. Les amis du roi dont l'assemblée sont aujourd'hui appelés les amis de la liste civile et ont fait très bien de rapprocher ainsi l'effet de la cause. Aimer les rois est une expression mystique et s'entend son tartuffe, mais aimer sa liste est un mot simple auquel il ne faut point de commentaire. C'est la risque de l'évergétisme royal. Il n'y a pas en France dans le Parti populaire des partisans de la monarchie, mais il y a des partisans de la liste civile. Et tel qui semble défendre les rois avec un fanatisme ridicule ne défend que sa part aux 25 millions d'après un calcul très conforme à une bonne arithmétique. C'est la catégorie de ridicule qui apparaît ici, mais à mon avis, le contexte est changé. Et cette idée d'appeler les partisans de la monarchie des partisans de la liste civile, je la trouve particulièrement percutante pour, aussi pour son actualité d'une certaine façon, parce que ça montre une perspicacité de la part des rédacteurs de l'époque. En tout cas, ce qui m'intéresse pour mon exposé, c'était les déplacements de perspectives par rapport à l'autorité, finalement. Je pense que la question que j'aimerais discuter avec vous, la différence à l'autorité ou le respect de l'autorité, d'Adam Smith à Sophie de Coucy, puis dans une tradition bien française, d'autres auteurs qui ne vont plus citer Adam Smith, mais à mon avis, ils sont plus ou moins tributaires de cette discussion, pas d'Adam Smith lui-même. Donc, ma recherche porte sur les périples de ces idées smithiennes en France. Je voulais vous remercier. J'espère que ce n'était pas été trop long.